carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour Madame, Monsieur et merci de nous écouter sur Canal Académie. Aujourd'hui, Nicole Garnier-Pell, conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé, nous présente l'exposition intitulée « Henri IV, portrait au pluriel d'un règne » au domaine Chantilly qui est installé jusqu'au 16 août 2010. Bonjour Nicole Garnier.
Bonjour.
Quelles sont les raisons pour lesquelles Chantilly s'occupe d'Henri IV et honore l'année 2010 autour de l'anniversaire de son assassinat?
Alors vous l'avez dit, 14 mai 2010, c'est la mort d'Henri IV. Et donc, tout naturellement, le domaine de Chantilly et le musée Condé célèbrent la disparition du Vert-Galant, du roi qui est sans doute le plus populaire de tous les rois de France, Henri IV. Car Henri IV, en effet, entretenait des rapports étroits avec Chantilly. C'est un lieu qu'il a beaucoup aimé, où il venait souvent. Il venait chasser à peu près un mois par an, on le suit très bien, de 1602 à 1610. Il vient à peu près tous les mois de mars.
C'était chez les Montmorency à l'époque ?
Chantilly était à l'époque la propriété du connétable Henri de Montmorency, donc fils du connétable Anne, un ami proche d'Henri IV, que le roi appelait mon compère. Et donc chez son compère, Henri IV venait chasser un mois par an, tous les mois de mars. Alors, il y avait à ça plusieurs raisons. Peut-être l'essentiel, c'est que Chantilly est proche de Verneuil-en-Hallathe et que Verneuil-en-Hallathe était la propriété d'Henriette de Balzac d'Entragues, l'une des nombreuses maîtresses du Vert-Galant, celle qui lui a donné plusieurs enfants en tout cas.
Celle qu'il avait projeté d'épouser mais qui est décédée auparavant.
Oui, oui, même mes aventures d'ailleurs avec Gabrielle d'Estrée, peut-être sa maîtresse la plus connue, et sans doute celle qu'il a aussi le plus aimée et qu'il avait eu la pensée, c'est vrai, d'épouser. Mais Gabrielle était sans doute la femme de sa vie. Henriette est venue la remplacer par la suite et donc c'est sans doute par affection pour elle qu'il se déplaçait aussi régulièrement à Chantilly et puis parce qu'il aimait ce lieu dont il a dit « c'est la plus belle maison de France et plus belle que les miennes ». Et donc à partir de là, il a eu évidemment l'idée de l'échanger à son compère Henri de Montmorency contre une autre maison royale. Alors la tradition nous dit que le connétable aurait eu ce bon mot « d'accord, sire, pour vous l'échanger, mais à condition que j'en demeure le concierge ». Ce qui fait que bien sûr, Henri IV a ri. Et Chantilly est restée propriété des Montmorency avant de passer ensuite au Condé. Voilà un petit peu le lien qui unit Henri IV et le domaine de Chantilly. Sachant que la ville de Senlis est aussi un lieu où il s'est rendu fréquemment. C'est vers Senlis qu'il s'enfuira lorsqu'après la Saint-Barthélemy, il est prisonnier du Louvre, qu'il va venir chasser aux alentours de Paris. Et il prétextera une fuite vers la région de Chantilly-Senlis.
Pour partir vers Pau.
Pour partir, voilà, beaucoup plus loin, rejoindre l'armée protestante, bien sûr. Et puis à la fin de sa vie, il aura une autre raison de s'intéresser à Chantilly, c'est qu'ayant fréquenté de près Chantilly et son compère le connétable, il va tomber éperdument amoureux de la fille
Charlotte.
De ce dernier, la belle Charlotte Marguerite de Montmorency, qui est une jeune fille de 15 ans et demi quand il la découvre, alors que le Vert-Galant, rappelons-le, a 56 ans, il mourra à 57, et donc elle sera son dernier amour. C'est Charlotte, probablement un amour platonique d'ailleurs, c'est assez rare chez Henri IV. Donc la jeune fille fait partie de l'entourage de la reine Marie de Médicis. En fait, ce n'est pas à Chantilly qu'Henri IV va tomber amoureux, c'est au Louvre, dans la Grande Galerie. Il découvre un soir cette très jeune fille en costume de danse. Elle est en train de répéter un ballet. Elle est en robe de tulle avec à la main une flèche, un dard qu'elle lance comme par jeu vers le vieil homme qui évidemment est tout retourné, qui tombe sous le charme. Alors il tombe malade, comme toujours, Henri IV, quand il est amoureux, il tombe malade.
Oui, parce que c'était un homme passionné.
Absolument, absolument. Et donc il est séduit par cette indéniable beauté. Hein. Tous les contemporains mentionnent la beauté extraordinaire de la jeune fille. Et donc pour s'attirer les faveurs de la jeune femme, pour la garder près de lui, il faut qu'elle vienne à la cour, et pour ça il faut la marier. Il va donc trouver judicieux de lui faire épouser très rapidement, à l'âge de 16 ans, son neveu à lui, son petit cousin, on va dire. Henri II de Bourbon, prince de Condé, qu'on dit être plutôt porté sur les hommes que sur les dames. Toujours est-il que sitôt le mariage conclu, très vite, à Chantilly, avec l'accord du connétable de Montmorency, eh bien le jeune marié va s'émouvoir un petit peu de l'intérêt que l'oncle à la mode de Bretagne, que le roi Henri, porte à la jeune femme, et il va bien sûr décider de la soustraire aux avances du Vert-Galant, ce qui nous mettra aux portes d'une guerre européenne, parce qu'Henri de Bourbon-Condé va s'enfuir avec la jeune femme, son épouse, à la cour de Bruxelles, où l'archiduc Albert, l'archiduchesse Isabelle Clérogénie, donc des Habsbourg, vont accueillir le jeune couple fuyard.
Et quand on était prince de sang, car c'était un prince de sang,
absolument.
Avait-on le droit de passer une frontière sans demander au roi ?
Bien sûr que non, d'autant que jusqu'en 1600, là on est un petit peu plus tard, hein, mais jusqu'en 1600, Henri II de Bourbon-Condé, héritier du trône avant la naissance de Louis XIII, du dauphin Louis, né de Marie de Médicis, avant cette date, Henri II de Bourbon-Condé était l'héritier potentiel d'Henri IV. Donc un personnage très important à la cour, et en cas de décès des enfants royaux, c'est lui qui doit reprendre le trône des Bourbons. Donc c'est particulièrement scandaleux pour le roi Henri de voir cette disparition et ce manquement à l'autorité familiale, il faut bien le dire aussi. Donc Henri IV ne supporte pas ça, en plus il est éperdument amoureux de la jeune femme, donc il lève une armée, et sous un prétexte plus ou moins fallacieux, il s'apprête à partir en guerre, donc on est en mai 1610, l'armée est prête à partir, avant de quitter la France, il décide de faire couronner son épouse, la reine Marie de Médicis, de façon à ce qu'elle puisse devenir régente de France en son absence, et notamment s'il lui arrivait malheur, blessure ou décès, pendant cette campagne qu'il va mener dans le nord de l'Europe, dans les Flandres. Et c'est, comme l'on sait, le lendemain du couronnement de Marie de Médicis à la basilique Saint-Denis, qu'Henri IV tombera sous le couteau de Ravaillac. Y a-t-il un rapport ? Des historiens récemment ont encore souligné le lien qui existe entre la date prévue 48 heures à 3 jours plus tard, prévue dans les Flandres, du départ de cette armée, et puis l'assassinat du roi.
L'éternelle énigme.
L'éternelle énigme.
Revenons à Chantilly.
Bien sûr.
Donc, vous avez expliqué les liens entre Henri de Navarre puis Henri IV à Chantilly. Comment expliquez-vous qu'il y ait eu tant d'œuvres et tant d'objets liés à Henri IV ?
Alors, c'est bien sûr lié à la personne de notre donateur, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, donc fils du roi Louis-Philippe, éminent collectionneur, sans doute le plus grand collectionneur du XIXe siècle, qui réunit à Chantilly une grosse collection d'objets d'art. Le duc d'Aumale donnera en 1886 à l'Institut de France son domaine de Chantilly pour créer le musée Condé, avec deux interdictions, prêter nos collections, modifier la présentation. De ce fait, Chantilly est un élément inchangé de la muséographie du XIXe siècle, un des rares musées du XIXe.
Et est-ce qu'il avait fait comme un bail emphytéotique ? Est-ce qu'un jour, on aura le droit de changer ?
Non.
Jamais ?
Jamais.
Très bien.
Jamais. Ça fait partie du testament du duc d'Aumale que nous devons respecter ad vitam aeternam. Et d'ailleurs, le testament prévoit que si l'Institut de France, propriétaire, ne respectait pas cette clause, le domaine pourrait revenir aux héritiers du duc d'Aumale, ce qu'à Dieu ne plaise. Donc l'Institut veille jalousement sur les clauses du testament. Donc nous ne prêtons pas et nous ne modifions pas la présentation du duc d'Aumale. Alors cette présentation du duc d'Aumale, ces collections uniques en France, réunies à la fin du XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, en partie en Angleterre, hein, pendant l'exil du duc d'Aumale, après la chute de Louis-Philippe, lorsqu'il a vécu 23 ans exilé à Twickenham, près de Londres, ou lorsqu'après son retour en France, après la chute du Second Empire en 1871, il va collectionner, eh bien elle est en grande partie, cette collection, centrée sur le XVIe siècle, sur la Renaissance et sur l'époque d'Henri IV. En effet, le duc d'Aumale, qui était un grand militaire à l'origine, qui était un politique, la prise de la Smala d'Abdelkader, le gouverneur général de l'Algérie en 1948, va se reconvertir et pendant l'exil anglais, il va devenir historien.
Oui, parce qu'il ne pouvait plus être politique.
Voilà, il était chassé de son pays, chassé donc de toutes les espérances politiques et militaires qui étaient les siennes. Ce jeune homme de 26 ans a dû se reconvertir, donc il devient historien. Et il va s'intéresser tout particulièrement à l'époque qui est celle d'Henri IV, à l'époque des guerres de religion et à l'époque des princes de Condé, essentiellement, dont il est l'héritier. En fait, son idée, c'est d'écrire, il le fera d'ailleurs, en une douzaine de volumes formidables à lire, qu'on lit encore avec intérêt aujourd'hui. Il va écrire une monumentale histoire de ses ancêtres, les princes de Condé, ceux qui lui ont légué Chantilly.
C'est pas trop hagiographique ?
C'est pas trop hagiographique, c'est un très bon ouvrage historique. Et Luc d'Aumale va collectionner des éléments iconographiques à l'appui de son travail d'historien. Donc tout naturellement, il va collecter des portraits français du XVIe siècle, des gravures, des dessins, les fameux dessins de Clouet, bien sûr, puisque l'histoire des Condés, elle commence au XVIe siècle, et elle va s'étaler jusqu'à la fin du XVIIe, dans l'ouvrage tout au moins qu'Aumale écrira. Et il va réunir un certain nombre de portraits du temps d'Henri IV. Il va avoir une véritable passion pour ce personnage, qui est son ancêtre en ligne directe. Rappelons-le, Aumale descend en ligne directe du roi Henri IV, par Louis XIV, par le comte de Toulouse. Donc il est son descendant direct par les Orléans, enfin à plusieurs titres, Henri IV est l'ancêtre commun. Et donc il souhaitera placer dans le vestibule d'honneur de son château de Chantilly, qu'il va léguer à l'Institut en 1884, qu'il donnera ensuite en 1886, il va placer dans ce vestibule d'honneur, d'entrée de jeu, dès qu'on pénètre dans Chantilly, on est frappé, on rencontre le buste d'Henri IV. Henri IV avec tous les symboles royaux, les fleurs de lys, le hache, la couronne, et puis l'anagramme, De bon roi bonheur. Et qu'est-ce que ça veut dire, de bon roi bonheur, si on met les lettres dans un autre ordre? Eh bien, ça fait Henri de Bourbon. C'est le nom d'Henri IV, bien sûr.
Et
mais c'est
sien.
Aussi le nom d'Henri de Bourbon, Orléans, donc duc d'Aumale. Et pour qu'on comprenne bien l'allusion, c'est un petit peu comme un parrain qu'il place à l'entrée de ses grands appartements, puisque de part et d'autre, on a le buste de ses réels parrains, selon la religion catholique, sa marraine, Madame Adélaïde, sa tante, la sœur de Louis-Philippe, et son parrain, Louis-Henri-Joseph, prince de Condé, dernier duc de Bourbon, et dernier prince de Condé, qui lui lègue Chantilly en 1830. Et tout au-dessus, donc, on a Henri IV, comme un personnage tutélaire qui veille sur Chantilly et sur nos collections. Donc Henri IV, il est présent partout à Chantilly, à la fois à travers des portraits historiques que le duc d'Aumale a réunis, les fameux dessins des Clouet, les fameux portraits du cabinet des Clouet, mais aussi des commandes contemporaines que le duc d'Aumale a faites son vivant. Entre autres, il va commander donc, au sculpteur Marquest, qui va faire ce buste qui est dans le vestibule, un portrait en bronze, directement inspiré des modèles du temps, c'est-à-dire de Barthélemy Prieur, de Barthélemy Tremblay, de Bourdin, enfin, tous ces modèles qu'on connaît bien, de Mathieu Jacquet, d'Ygrenoble, qui étaient les sculpteurs contemporains du roi. Donc on va faire une sorte de mix pour s'approcher au plus près des traits du roi, et on a ce très beau buste 19e. Et puis il va aussi, au-delà du bronze, qui est une technique bien sûr privilégiée pour la sculpture au temps d'Henri IV, il va au-delà commander à un émailleur, qui est Claudius Poplin, un panneau émaillé qui représente donc le roi équestre selon une iconographie qui est classique au XVIe siècle. Et il va placer dans cette première salle, qui fait suite justement à ce buste de bronze par Marquest, il va placer 6 ou 7 enluminures du XVIe siècle qui montrent François Ier, Henri II, Henri III, Charles IX, Henri IV, qui sont des enluminures du temps. Il place cette commande contemporaine de Claudius Poplin, qui montre là encore un roi équestre, s'inscrivant dans la lignée des rois du XVIe siècle. Donc il y a une grande homogénéité dans cette série, et Poplin va réaliser pour lui un très bel émail, mais on est dans les années 1880-90, à la fin de la constitution de Chantilly, et c'est comme un point d'orgue posé à la collection des enluminures à la gouache, faite selon la technique du livre enluminé du Moyen-Âge, qui se poursuit au XVIe.
Vous avez réussi à faire venir d'autres objets oui, d'extérieur, parce que ça vous avez le droit.
Bien sûr, bien sûr. Le testament ne nous interdit pas de faire des expositions temporelles, le testament nous interdit de modifier la présentation. Donc on a fait venir à Chantilly une douzaine de pièces extérieures et nous avons des prêts, merci aux prêteurs, on a des prêts très importants, notamment du musée du Louvre, du département des sculptures, nous avons des prêts du musée national de la Renaissance à Écouen, du musée Jacquemart-André à Paris, autre propriété de l'Institut de France naturellement, des prêts également de la bibliothèque Sainte-Geneviève, j'en oublie forcément de la bibliothèque nationale de France, enfin les plus grandes institutions françaises se sont dessaisies pour nous de quelques-uns de leurs objets les plus précieux. Au total 12 prêts qui viennent en contrepoint, en confrontation avec plus d'une centaine de pièces de nos collections. Je ne parle pas des livres, uniquement des peintures, des dessins, des sculptures, des gravures, des émaux. Et l'exposition s'ouvre sur une série de portraits peints et à l'émail par Léonard Limousin pour les émaux, par Clouet pour les peintures, qui nous situe un petit peu Henri IV. Qui est Henri IV ? Bien, Henri IV, à l'origine, c'est un modeste prince de province qui est destiné à ne régner, à la base, que sur un tout petit état coincé entre la France et l'Espagne, puisqu'il n'est que le prince de Vianne à sa naissance, que le prince de Béarn ou prince de Navarre. Il est l'héritier du petit royaume de Navarre, que son grand-père Henri d'Albret, roi de Navarre, appelait à l'époque un royaume aussi grand qu'un pou que se disputent deux singes, les singes étant évidemment les royaumes de France et d'Espagne, qu'il avait déjà en partie démembré avant la naissance d'Henri IV en 1553. Donc le futur Henri, quand il naît en décembre 1553 au château de Pau, il n'est pas du tout destiné à devenir roi de France. Et ce que les premières œuvres de l'exposition veulent situer, c'est justement la généalogie de cet Henri, qui bien sûr descend des rois de Navarre par son grand-père Henri d'Albret, que nous présentons à travers un magnifique portrait à l'émail de Léonard Limousin, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'émail du XVIe siècle, qui est conservé à Chantilly depuis le duc d'Aumale bien sûr. L'épouse d'Henri d'Albret et la grand-mère d'Henri IV, c'est donc Marguerite d'Angoulême, la sœur du roi François Ier. Et là on voit tout de suite qu'Henri IV se rattache à la famille des Valois. Il est le petit-neveu du roi François Ier. Mais surtout, cette Marguerite de Valois et cet Henri d'Albret, ils vont marier leur fille unique, Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV. Ils vont la marier à un personnage qui est Antoine de Bourbon, qui ne sera roi de Navarre que par son alliance avec Jeanne d'Albret, mais qui surtout descend de Saint-Louis. Lui, il descend en droite ligne de Saint-Louis.
Le dernier fils de Saint-Louis, je crois.
Le sixième fils de Saint-Louis. Et cet Antoine de Bourbon va donc être l'élément par lequel Henri IV va succéder au trône tout à fait légitimement, puisqu'il se produit une chose tout à fait fortuite, qu'on ne pouvait pas attendre au moment de la naissance d'Henri en 1553, c'est que tous les enfants mâles d'Henri II et de Catherine de Médicis, et pourtant il y a eu 10 enfants, vont tous décéder sans donner d'héritier mâle à la France. François II, époux de Marie Stuart, va décéder à moins de 20 ans sans héritier.
Charles IX,
Henri III et le duc d'Alençon, le quatrième fils vivant, qui meurt en 1584 sans héritier mâle. Donc, il y avait quatre garçons vivants, adultes, qui n'ont pas su donner une descendance légitime à la maison de Valois. Donc, la branche de Valois va s'éteindre et Henri III, assassiné par le moine Jacques Clément en 1589, va sur son lit de mort désigner son beau-frère et cousin, Henri, roi de Navarre, le futur Henri IV, comme son successeur légitime. Blessé à mort, il se rend compte qu'il va décéder. Il indique à toute la cour, à tous ses proches, son beau-frère et cousin comme l'héritier légitime du trône. Donc en 1589, Henri, roi de Navarre, devient Henri IV, roi de France et de Navarre, titulature que reprendront, nous le savons, tous nos rois de France par la suite.
Ces portraits, il y en a un qui nous le montre jeune et c'est très agréable de découvrir ce visage déjà qui respire l'intelligence.
Oui, alors il y a un portrait très étonnant dans l'exposition qui ne vient pas des collections de Chantilly mais qui vient des riches collections de la Bibliothèque nationale de France. C'est un dessin aux trois crayons, tout à fait comparable à ce qu'on appelle les clouets de Chantilly. Vous savez que Chantilly s'enorgueillit d'avoir une collection de 366 portraits dessinés du XVIe siècle qu'on attribue à Jean Clouet, à François Clouet, son fils, à leur entourage. Et une partie de ce fonds, qui provient de la reine Catherine de Médicis, c'est en partie conservé à la Bibliothèque nationale. Chantilly en a 360 et la Bibliothèque nationale en a une petite partie, des 451 feuilles qui faisaient partie de la collection de la reine. Donc nous avons emprunté pour cette exposition sur Henri IV un dessin rarissime qui montre Henri jeune, et c'est vrai que pour celui qui n'a pas l'habitude de voir son portrait, c'est un jeune adolescent qui n'a donc pas la barbe avec lequel on est habitué à le voir, qui a encore des joues pleines, des traits pleins. Ce nez déjà relativement busqué, il ne fera que s'accroître et devenir de plus en plus crochu avec la maigreur que le roi acquérera au fil des ans, notamment pendant les rudes années du début du règne où il va combattre.
Prenant toujours les armes contre la France catholique et les ligues.
Bien sûr. Et c'est là où son image physique va beaucoup changer. Mais pour l'heure, dans ce dessin, il a 19 ans, il n'est que le roi de Navarre, il vient à Paris pour épouser sa jeune et belle cousine, Marguerite de Valois, celle qu'Alexandre Dumas, le XIXe siècle, appelleront la reine Margot. Et donc, dans ce portrait, on voit un tout jeune homme, un tout jeune adolescent, avec les cheveux relevés, un peu roux, hein, il a les cheveux un petit peu roux. Nous, on a plutôt l'habitude de voir un personnage aux cheveux grisonnants, les cheveux blancs même, avec cette barbiche en pointe, ce nez crochu. Là, c'est une figuration tout à fait différente d'un adolescent rieur et souriant, qui a une éducation heureuse à la cour des Valois. Alors, ses premières années vont se passer, en fait, dans son Béarn natal. On a pu évoquer les années où il va être élevé au château de Coarraz par des cousins de la famille d'Albret, où il va parler le béarnais, où il va vivre dans la campagne avec ses jeunes camarades. Et puis, ma foi, il faut bien faire son éducation de prince. À 3 ans et demi, déjà, ses parents, Jeanne d'Albret et Antoine de Bourbon, l'amènent à la cour de France. Il va rencontrer Henri II, qui est encore vivant. Henri II le prend sur ses genoux et lui dit « Veux-tu bien être mon fils ?» Alors, le jeune Henri, qui ne parle pas encore le français, mais qui ne parle que le béarnais, mais qui comprend en tout cas la langue d'Henri II, lui répond en béarnais « Non, non, c'est celui-là, le roi mon père », en montrant Antoine de Bourbon. Alors ça fait rire Henri II, qui lui dit « Alors, est-ce que tu veux bien être mon gendre ?» Et ça sera l'origine du mariage entre le jeune Henri, prince de Béarn, prince de Navarre, et Marguerite de Valois, donc 15 ans plus tard. Donc ils se marient, ces deux jeunes gens, ils ont 19 ans l'un et l'autre. Ils ont été élevés ensemble à la cour de France, puisque Jeanne d'Albret acceptera que son fils Henri soit élevé avec ses cousins, donc François II, Charles IX, Henri III, la reine Margot, Henri de Guise, les guerres de religion, vous savez, c'est aussi une affaire de famille, hein. Le jeune duc de Guise.
Et tout ça grandissait ensemble.
Tout ça grandissait ensemble, était élevé ensemble dans le Louvre. Et Catherine de Médicis, donc, était la mère des garçons royaux, mais aussi la belle-mère, la maîtresse de maison qui régissait cette éducation que les jeunes princes ont eue tous ensemble. Donc le mariage a lieu en 1572, on est en août 1572, Henri donc quitte son royaume de Béarn, monte à Paris, entouré de tout son entourage, la jeune noblesse béarnaise, protestante bien sûr, vient à Paris. Le mariage a été arrangé par Jeanne d'Albret, qui veut faire la paix. On est en pleine guerre de religion avec la France catholique. Catherine de Médicis, reine régente, veut assainir la situation, veut une politique de tolérance. Jeanne d'Albret a compris l'intérêt. Malheureusement, Jeanne d'Albret
elle
décède
avant...
juste avant le mariage.
Oui,
elle monte la cérémonie, elle organise tout avec sa cousine Catherine de Médicis, et puis elle décède malheureusement avant la cérémonie. Donc Henri IV d'ailleurs apprendra en se rendant vers Paris pour se marier le décès de sa mère. Le mariage a donc lieu en août 1572 à Paris. Henri est devenu roi de Navarre depuis quelques jours. C'est un mariage fastueux. Problème, la mariée est catholique, le roi est protestant. Ça se passe donc devant les marches de Notre-Dame. Charles IX apparemment doit insister un petit peu auprès de Margot pour qu'elle prononce le oui d'usage, voire lui donne un grand coup de coude pour qu'elle se penche un peu en avant et acquiesce. Elle n'a aucune envie d'épouser Henri IV, dont on nous dépeint... un physique pas vraiment agréable. Elle est elle-même, nous dit-on, très amoureuse d'Henri, duc de Guise, un fort beau cavalier, donc un des garçons avec qui elle a été élevée, pour qui elle est son penchant et son cœur. La chose politique est autre chose. Charles IX, roi de France, et sa mère Catherine de Médicis l'obligent à épouser son cousin, Henri de Navarre. Donc le mariage se fait. Henri donc n'assiste pas à la messe, bien sûr. Il sort de la cathédrale, il reste à l'extérieur. Cependant, Charles IX représente... cousin Henri IV au bras de Marguerite de Valois dans la cathédrale. Donc le mariage se passe et quelques jours après survient le drame,
ce qui a fait parler.
Voilà, on a parlé de noces de sang pour désigner ce mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite de Valois, puisque quelques jours après, la situation étant très tendue, l'amiral Gaspard de Coligny, dont les traits sont représentés à de multiples reprises dans l'exposition de Chantilly, qui est un petit peu comme un parrain, voire un second père.
Pour le futur Henri IV.
Pour le futur Henri IV, voilà. Va être victime d'un attentat. On lui tire un coup d'arquebuse. Comme par chance, il s'est baissé au moment du coup de feu pour rajuster ses chausses, son lacet, dirait-on aujourd'hui. Eh bien, le coup est dévié. Il est blessé lourdement à l'épaule. On le transporte chez lui. Il est grièvement blessé, presque mourant. Et évidemment, la situation est très tendue. Donc, c'est le moment où s'enclenche le massacre de la Saint-Barthélemy, avec peut-être, dit-on, l'assentiment du roi Charles IX, vous savez le mot célèbre, probablement apocryphe, tous les tous qu'il n'en reste pas un pour me les reprocher, qu'il l'ait dit ou pas, toujours est-il que le massacre va se faire. Donc dans la nuit du 24 août, qui est la Saint-Barthélemy, le glas de Saint-Germain-l'Auxerrois va se mettre à sonner, et les protestants parisiens et toute la cour du jeune roi de Navarre va être mise à mort dans des conditions épouvantables. Marguerite de Valois, jeune mariée, va voir les jeunes gens de la suite de son mari entrer dans sa chambre en pleine nuit pour demander grâce, s'accrocher à son lit, enfin c'est quelque chose de dramatique. Et Henri, roi de Navarre, qui est dans le Louvre, ne devra son salut qu'au fait d'avoir épousé la propre sœur du roi et d'avoir abjuré aussitôt sa religion. Il abjurera sept fois la religion protestante. Sept fois, il va changer de religion pour épargner sa vie et pour des raisons politiques. Donc c'est un épisode qu'on n'oublie pas. Et évidemment, on ne peut pas ne pas penser, on est en 1572, à ce que sera l'édit de Nantes en 1589 qui mettra fin donc aux guerres de religion. Et toute sa vie, Henri IV va tendre à unifier le pays, à pacifier notre pays français qui est ravagé par la guerre, qui est donc complètement à feu et à sang, avec une économie ruinée complètement, qu'il contribuera après 1589, grâce aux bons soins de son ministre Sully, qui bien sûr est aussi représenté dans notre exposition à Chantilly, à remettre sur pied. Donc un épisode vraiment fondateur dans la vie du jeune Henri, ces noces de sang, ce massacre de la Saint-Barthélemy, auquel il échappe de peu. Vous savez que Sully, qui sera son futur ministre des Finances, n'est alors que son page, il a 12 ans, il est un petit peu plus jeune que le roi, qui en a 19. Et lui, il ne doit sa survie pendant la nuit de la Saint-Barthélemy qu'à sa présence d'esprit et à son intelligence. Il s'empare d'un paroissien, d'un livre d'heures catholique. Il le brandit bien clairement à la main et il franchit tout Paris pour aller se réfugier dans un collège protestant où il s'enferme en attendant que les événements se tassent. Il y aura donc des milliers de protestants qui vont être assassinés, jusque dans la chambre de Marguerite de Navarre, jusque dans le Louvre. On sait que la Seine est rouge de sang. Le charnier, d'ailleurs, des morts de la Saint-Barthélemy, on le retrouvera en 1889, quand on creusera les fondations de la Tour Eiffel, puisque c'est vers le Champ de Mars que sont enterrés les corps des protestants mis à mort cette nuit-là. Donc plusieurs milliers de morts, c'est quelque chose d'assez terrible dans notre histoire. Une chose terrible faite au nom de la religion, au nom de notre religion catholique. Et donc ce massacre va marquer toute sa vie, Henri. Donc 1572, il est l'époux de Marguerite de Valois, il a abjuré la religion protestante, il vit comme un catholique dans le palais du Louvre, il tente un peu de s'étourdir, il vit en jeune prince, il s'intéresse aux beaux habits, aux vêtements, aux jeux, aux femmes aussi. Il mène une vie très libre, Marguerite de Valois mène une vie libre de son côté. Le jeune couple s'entend bien, mais mène sa vie séparément. Et ces années dureront jusqu'en 1576, jusqu'à ce que Henri de Navarre, eh bien, faisant retour sur lui-même, comprenne quel est son destin et décide de s'enfuir du Louvre. Alors progressivement, il a accoutumé tout son entourage à
aller
chasser un petit peu.
De plus en plus grand.
Et puis il va chasser en forêt de Senlis et là, il ne viendra pas. C'est une fuite, 1576, il s'enfuit, il va rejoindre l'armée protestante, il rejoint Lucien. Et ça va être les années difficiles. Années difficiles jusqu'à la paix, je vais très vite sur l'histoire, jusqu'à la paix de Plessis-les-Tours, où il fera la paix avec son cousin Henri III, qui a une grande estime pour lui. Henri III est son ami d'enfance, Henri III est un homme intelligent, un homme modéré, Henri III qui va établir l'ordre du Saint-Esprit, cet ordre, cette distinction qu'on donne à tous les seigneurs, qu'ils soient catholiques ou protestants.
Va-t-il la lui donner, puisqu'il est protestant, mais vous dites que...
Alors le Saint-Esprit, c'est quelque chose en quoi catholiques comme protestants peuvent se reconnaître, par opposition à l'ordre de Saint-Louis, qui bien sûr ne peut pas être reconnu par les protestants.
La Pentecôte, c'est pour tout le monde.
Voilà. D'ailleurs, on verra toujours dans les portraits du règne d'Henri IV, que nous présentons à Chantilly dans notre exposition, on verra toujours Henri IV avec l'écharpe blanche protestante, qui est celle de son parti, et avec l'ordre du Saint-Esprit que crée Henri III. Donc à partir du moment où, lors de leur rencontre à Plessis-les-Tours, Henri III et le futur Henri IV allient leurs deux armées pour faire front contre la Ligue ultra-catholique qui tient la ville de Paris. Car Henri III aussi, à un moment donné de son histoire, doit fuir la ville de Paris pour échapper aux ultra-catholiques.
Oui, car c'est l'épisode des premières barricades parisiennes.
Voilà, absolument,
en
la journée
88.
Des barricades. Absolument. Et donc c'est aussi une des raisons qui causera l'assassinat, le régicide d'Henri III par le moine ultra-catholique Jacques Clément au château de Saint-Cloud. C'est là où donc Henri III va désigner le futur Henri IV comme son successeur légitime. Et à partir de là, 1589 à 1594, Henri IV mettra 5 ans à pouvoir entrer dans sa capitale. Lui qui est roi de France et de Navarre, il ne pourra pas entrer dans sa bonne ville de Paris avant mars 1594, avant d'avoir reconquis le pays les armes à la main. Il ne pourra pas se faire sacrer roi de France à Reims, comme l'ont été tous ses prédécesseurs, parce que Reims, c'est la patrie des Lorraines de Guise, le fameux pays du duc de Guise, qui a été assassiné, bien sûr, sur Henri III.
Il l'a fait à Chartres.
Et voilà. Et Henri IV, lui, se fera sacrer, seul de tous, dans la cathédrale de Chartres, avec des régalias qu'on va faire refabriquer à la hâte pour la cérémonie.
Vous avez fait aussi une part importante dans l'exposition à la pompe funéraire.
Oui.
Quelles sont toutes ces productions aujourd'hui peu connues du public ?
Alors, c'est une partie, en fait, de la sculpture contemporaine du roi Henri IV. On sait que lorsque Henri III est assassiné, donc rue de la Ferronnerie, par Ravaillac, tout près du Louvre, il va se vider de son sang très rapidement. Le corps du roi va donc être transporté au Louvre, probablement déjà mort quand il revient au palais royal, enfin au palais du Louvre. Et les sculpteurs contemporains du roi vont être chargés, comme à l'accoutumée, de faire un moulage du visage du roi. Donc on va mouler une première fois le visage de ce roi, et on va réaliser, comme on l'a toujours fait au Moyen-Âge et à la Renaissance encore, ça c'est la dernière fois sous le règne d'Henri IV, on va réaliser ce qu'on appelle une feinte, ou remembrance, c'est-à-dire un mannequin d'osier, avec un visage de cire polychrome imitant le visage du roi. On va bien sûr s'adresser, pour réaliser cette feinte ou remembrance, aux meilleurs sculpteurs qui ont déjà travaillé sur les traits du roi, qui connaissent bien sa morphologie, sa physionomie. Donc on fait appel à Michel Bourdin, on fait appel à Mathieu Jacquet, dit Grenoble, tous ces sculpteurs qui connaissent bien le roi. Et on va assister, y a-t-il un rapport entre les deux? C'est la question que pose l'exposition de Chantilly. On va assister à une floraison de bustes en cire polychrome montrant les traits d'Henri IV. Alors l'un des plus anciens de ces bustes, c'est celui qui est conservé à Chantilly, au musée Condé, depuis le XVIIIe siècle, car il faisait partie de la collection des princes de Condé. On sait qu'il se trouve avant 1740, car il est dans l'inventaire après décès du prince de Condé, Louis-Henri de Bourbon, dans notre cabinet d'angle. Et c'est un buste magnifique, entièrement en cire, la tête, le buste, la cuirasse, tout est en cire polychrome, donc teinté dans la masse, avec un aspect, on croirait voir le roi vivant, les yeux ouverts, nous regardant. C'est quelque chose de très impressionnant, un buste en cire polychrome, lorsqu'il est d'une grande qualité. Pour l'exposition de 2010 à Chantilly, nous avons confronté ce buste de nos collections à celui du musée Carnavalet à Paris et à celui du musée Granet d'Aix-en-Provence, sachant qu'il en existe encore deux autres dont nous n'avons pas pu voir le prêt pour des raisons de distance ou de rénovation des musées qui les possèdent, L'un, c'est Genève, le musée d'art et d'histoire, et l'autre, c'est le musée de Cassel, en Allemagne, actuellement en rénovation, et dont les collections sont complètement indisponibles et en caisse. Donc l'idée était de comparer ces différents bustes en cire polychrome et d'essayer d'établir le lien ou non existant entre la remembrance de 1610 et la sculpture de ces cires polychromes.
Est-ce que vous avez d'autres pièces remarquables dans l'exposition, aussi remarquables que ces pompes funéraires-là ?
Alors, il y a quelque chose de très impressionnant aussi, à mon sens, c'est le masque en plâtre montrant le visage du roi mort. Alors, on voit apparaître, au début du XIXe siècle, c'est bien après la mort du roi, le roi mort en 1610, nous sommes en 1793, le roi était enterré donc, à la basilique Saint-Denis, auprès des autres rois de France. Lorsque les profanations révolutionnaires vont pousser les patriotes français à déterrer les corps des rois de France, à profaner ces corps. Et on va, bien sûr, se passionner pour le cercueil d'Henri IV, parce qu'Henri IV, c'est un roi qui marque l'imagination des Français. C'est déjà, à la fin du XVIIIe siècle, le roi le plus aimé, le mieux connu de l'histoire de France. Il se trouve de plus que quand on ouvre le cercueil, les traits du roi sont parfaitement conservés. Rien d'étonnant à cela, puisque le roi a été tué d'un coup de couteau dans l'aorte, donc il a été vidé de son sang, le corps a été embaumé, donc les chairs sont relativement bien conservées. Ceci dit, on a affaire à un corps momifié. On a de cette profanation deux iconographies très différentes qui sont représentées dans l'exposition, non pas par des originaux, mais par des répliques photographiques. L'une, c'est une gravure de Langlois du Pont de l'Arche qui nous montre un visage en parfait état. Un corps dans des bandelettes, un peu comme une momie égyptienne, et un visage parfaitement identifiable, c'est l'Henri IV qu'on connaît. L'autre, qui est un dessin, qui est dû à Alexandre Lenoir, conservateur du musée des monuments français, qui a fait ça sur place, nous dit-on. Maintenant, nous n'avons qu'une certitude, bien sûr. Donc, dessin d'Alexandre Lenoir et de Charles Percier, l'architecte, celui qui, avec Percier et Fontaine, sera l'architecte du Louvre et de nombreux monuments sous Napoléon. Donc, ces deux dessinateurs, historiens, hommes de l'art, vont réaliser donc ce croquis qui nous montre le corps d'Henri IV. Et là, on voit bien qu'il s'agit tout de même d'une momie. Or, dans les années 1800 à 1830, c'est-à-dire globalement pendant les années de la Restauration, pendant les années où les rois Bourbons, Louis XVIII, Charles X, vont remonter sur le trône après les années de la Révolution et l'Empire, on va voir sur le commerce d'art fleurir toute une série de masques en plâtre, dits d'Henri IV, et qu'on nous annonce avoir été fait sur le moulage pris en 1793 à Saint-Denis au moment de la profanation. D'après le dessin de Lenoir et Percier, c'est impossible. Il n'est pas possible de mouler le visage d'un personnage mort en 1610 et qu'on aurait exhumé en 1793. L'état du corps conservé, du cadavre, ne le permet pas. À mon sens, ces moulages en plâtre, dont on connaît de nombreux exemplaires, il y en a à Rouen, au musée des Antiquités, à Paris, la bibliothèque Sainte-Geneviève, et Sainte-Geneviève nous a prêté son exemplaire, qui est un des plus beaux qui soit, mais il y en a d'autres un petit peu partout dans les musées de province ou à l'étranger. Eh bien, à mon sens, ces moulages en plâtre sont faits à partir du moulage d'origine fait en 1610, au moment de la fameuse feinte aux remembrances faite par Mathieu Jacquet, Michel Bourdin et les sculpteurs contemporains du roi. Donc voilà comment la boucle est bouclée et comment cette image funèbre du roi, eh bien, elle nous est conservée. Alors ça, c'est aussi impressionnant. Mais nous avons dans l'exposition d'autres images fortes du roi, avec notamment deux prêts essentiels du Louvre, qui est la magnifique sculpture de Mathieu Jacquet en bronze, dérivée donc de la belle cheminée, la cheminée monumentale du château de Fontainebleau, une demeure que Henri IV aimait beaucoup, et où il aurait souhaité d'ailleurs installer le siège de son gouvernement, puisqu'il avait été terrifié par la Saint-Barthélemy et par ce qui s'est passé à Paris.
Oui, c'est toujours des souvenirs qui font que Paris fait peur.
Voilà, exactement, comme Louis XIV s'installera.
Foule parisienne fait peur.
De la même manière que Louis XIV s'installera à Versailles, il est petit-fils.
C'est un souvenir de la Fronde.
Voilà, c'est un souvenir de la Fronde, et de la même manière, Henri IV avait imaginé s'installer lui aussi à Fontainebleau. Donc on a ce magnifique décor de la belle cheminée, avec la statue équestre du roi et ce visage qui regarde vers ses sujets, eh bien, il y en a de cette tête de Mathieu Jacquet, donc un très bel exemplaire, une tête seule qui est conservée au musée du Louvre, qui est un des plus beaux portraits que je connaisse du roi. Il y a aussi à ses côtés, et je remercie Geneviève Bresse, conservateur général chargé du département des sculptures du Louvre, d'avoir bien voulu me prêter également eh bien, le portrait de celui dont nous parlions au début de cette émission, d'Henri de Montmorency, le connétable, le compère, celui avec qui Henri IV va prendre Paris en 1594, et de permettre donc au compère de regagner sa maison. Car en fait, ce buste d'Hubert Le Sueur, qui est conservé au Louvre, cette tête en bronze, plus exactement, montée sur un buste de pierre qui n'est probablement pas d'origine, eh bien c'est la tête de la statue équestre du connétable Henri de Montmorency qui, jusqu'en 1793, jusqu'à la Révolution, se tenait sur la terrasse du connétable à Chantilly. Donc le connétable n'était jamais revenu chez lui jusqu'en 1793. Le musée du Louvre a permis que nous le fassions revenir en cette année Henri IV.
Mais il ne pourra pas y rester.
Nous devons le rendre à partir du 16 août.
Il était invité. Alors, je vois bien qu'Henri IV a fait l'objet d'un véritable mythe, Nicole Garnier. En quelques mots, pourriez-vous, pour conclure, nous dire comment évolue l'iconographie du roi dans l'histoire de l'art ?
Alors, en fait, il y a une cassure à partir de la mort du roi. Autant le roi Henri IV est détesté de son vivant. Roi à moitié protestant, à moitié catholique, en pleine guerre de religion, c'est vrai que les Français aiment peu ce personnage, qui leur paraît double, qui leur paraît peu clair. La tolérance n'est pas forcément mise pendant les guerres de religion. Autant à partir de l'attentat de Ravaillac, il devient le roi martyr.
C'est une déploration, tout à
voilà,
coup.
Voilà, tout change. Autant il était détesté, autant à partir de 1610, autant à partir du 14 mai, il devient le roi le plus aimé des Français. Et il l'est encore. C'est peut-être le seul roi de France que les Français savent situer dans l'histoire.
Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec Henri III, qui lui aussi n'était pas aimé, qui lui aussi fut assassiné, mais au contraire, son assassin fut glorifié, lui. Alors qu'Henri III a été finalement un roi martyr. Mais revenons à Henri IV. Donc lui, tout de suite, hop, tout change à 360 degrés.
D'autant qu'il y a un usage politique habile qui est fait de l'image d'Henri IV par sa veuve, la reine régente Marie de Médicis. Elle va commander, on le sait, une série de magnifiques tableaux, aujourd'hui au Louvre, mais destinés à orner son palais du Luxembourg, qui reprennent la geste de Marie de Médicis et d'Henri IV. Elle va évidemment figurer son époux sous des traits flatteurs, de façon à mettre en valeur la régence qu'elle doit assurer pour lui succéder. Et on sait qu'elle aura un conflit politique avec son fils Louis XIII. Donc l'image d'Henri IV sur laquelle s'appuie la reine va être quelque chose qui va faire démarrer cette image positive du roi Henri IV. Donc elle va entre autres s'appuyer sur les portraits de Franz Purbus. Le plus beau est au Louvre, c'est ce portrait en habit noir. Il y en a un autre cuirassé, on en a une version à Chantilly qui est dans l'exposition, qui va nous montrer ce roi hiératique, représentant le pouvoir royal. Donc elle va évidemment développer cette image-là. Par la suite, ce qui va modifier de façon importante l'image du roi Henri IV au XVIIIe siècle, ça va être d'une part la Henriade de Voltaire, un poème épique qui va donc mettre à la mode Henri IV. Et puis peut-être encore plus, c'est une petite pièce de théâtre fort modeste qu'on a aujourd'hui bien oubliée, qui est de Charles Collet, qui était écrite en 1766 et qui s'appelle « La partie de chasse d'Henri IV ». Et c'est une pièce très, très bonhomme, très... bien dans le style de ce qu'on pouvait écrire à la fin du XVIIIe siècle. Ce n'est pas du grand art, ce n'est pas de la grande littérature, mais ça diffuse l'image d'un roi charitable, proche de ses sujets, un roi bonhomme, jovial, souriant, qui s'appuie sur son ministre Sully pour mettre la poule au pot tous les dimanches, pour remonter le niveau de vie, dirait-on aujourd'hui, de ses sujets, et qui va donc aider au mariage une de ses paysannes françaises. On est en forêt de Fontainebleau, le roi s'égare et il va aider cette jeune femme qu'il rencontre à épouser celui qu'elle aime. Donc cette partie de chasse d'Henri IV, ça va être un must, ça va être une pièce de théâtre complètement incontournable. Elle s'appuie en plus sur des chansons, notamment sur une chanson militaire qu'on a dit être inventée par les soldats d'Henri IV à la bataille d'Ivry. Et on nous parle d'un bon roi qui aime le vin, les femmes, enfin tout ce qu'il faut aux Français pour en faire un personnage sympathique. Donc cette image positive d'Henri IV à la fin du XVIIIe siècle, elle sera aussi reprise par Louis XV, par Louis XVI, quand ils vont commander aux Gobelins des séries rétrospectives des rois de France. On va mettre en avant cette image d'Henri IV, qui est un personnage sympathique aux Français, alors que Louis XV et Louis XVI, vivant sur leur terre de Versailles, sont un petit peu plus loin des mentalités populaires. Et bien sûr, sous la Restauration, de 1815 à 1830, Louis XVIII et Charles X, les frères du roi Louis XVI...
Récupèrent, c'est pas un mot très élégant, mais absolument. C'est totalement la vérité.
Totalement, récupération politique avec des tableaux d'Ingres, les tableaux du baron Gérard qui vont nous livrer des épopées romantiques de la prise de Paris, qu'on peut d'ailleurs comparer dans notre exposition de Chantilly, le grand tableau de Gérard qui montre la prise de Paris avec le panache blanc, Gabriel Destré à la fenêtre, c'est totalement utopique, c'est irréaliste, c'est pas du tout historique. On peut le comparer avec les images du temps qui avait été commandé par Henri IV, parce qu'Henri IV a commandé beaucoup de gravures, a influé aussi sur la production de l'imagerie populaire
de son
temps.
Oui, car il avait le sens de sa propre communication, propagande.
Tout à fait. D'ailleurs, quand il entre dans Paris en 1594, après 5 ans de lutte, comment est-ce qu'il fait alors que le pays a été mis à feu et à sang, alors que la ville de Paris a été assiégée? que les Parisiens sont arrivés à la famine, il va y avoir des centaines de morts à cause de la famine, eh bien, il trouve la faille, c'est la communication qui l'y aide. Il fait imprimer à Senlis, donc voisine de Chantilly, bien sûr, il fait imprimer la déclaration de Senlis par laquelle il promet l'amnistie générale aux Parisiens s'ils se rendent, s'ils laissent le roi entrer dans sa capitale. Et deux jours après, le libelle ayant été balancé par-dessus les murs de la ville, eh bien, Paris se rend pratiquement sans coup férir. Donc la communication, oui, c'est quelque
c'est
chose d'Henri IV.
C'est un homme moderne et qui aussi, il passe à travers les siècles, parce qu'il est moderne pour toujours.
Et puis surtout, c'est un homme de tolérance, parce que bien évidemment, ce qu'on n'a pas encore évoqué ici, c'est l'édit de Nantes, par lequel donc il va apaiser dans le cœur des Français les conflits qui sont ceux des catholiques et des protestants.
Qui déchiraient le pays.
Alors à la fin de l'exposition, il y a un petit secteur qui est consacré à l'image des guerres de religion. Bien sûr, on a placé dans le secteur de l'exposition notre assassinat du duc de Guise par Delaroche, qui est un des grands chefs-d'œuvre de la collection de Chantilly. Donc attentat, bien sûr, commandité par le roi Henri III. Les 45, la garde personnelle d'Henri III va dans la chambre même du roi venir assassiner le duc de Guise, un chef des ultra-catholiques. Et en contrepoint, j'ai placé un tableau qui n'est peut-être pas d'un grand artiste, d'un artiste officiel de la fin du XIXe, qui s'appelle Adrien Marie, et qui représente l'entrevue de Toury. Alors Toury, c'est un des premiers combats des guerres de religion, on est en 1562, tout de suite après le massacre de Vassy. Et on y voit Catherine de Médicis sur le champ de bataille, avec ses grands voiles noirs, la reine régente montant sa acnée en Amazone. Autour d'elle, les chefs catholiques et les chefs protestants. Avant le combat qui va avoir lieu, c'est inéluctable, elle a souhaité prendre 50 gentilshommes catholiques, 50 gentilshommes protestants, et elle les fait parlementer, elle les fait discuter entre eux, elle les cède. Mettre en avant cette tolérance qu'on aura tant de mal avant 1589 à établir en France. Et on voit ces jeunes seigneurs, alors les uns ont l'écharpe blanche, ce sont les protestants, les autres l'écharpe rouge, ce sont les catholiques. Et bien au bout de 2 heures de discussion, de débat, ben, on finit par s'embrasser et tomber dans les bras l'un de l'autre, parce qu'on est beau-frère, on est cousin, on est frère.
Que de clans qui sont en fait imbriqués.
Et entre autres, on y trouve le père d'Henri IV, Antoine de Bourbon, lieutenant général du royaume, chef de l'armée catholique, et son frère, Louis de Bourbon, Condé, chef de l'armée protestante.
Merci Nicole Garnier. Votre exposition du musée Condé apporte un nouvel éclairage très riche d'enseignements, tant sur la personnalité du roi que sur la construction de sa légende, sa fameuse légende. Merci beaucoup.
Et juste peut-être un mot pour rappeler qu'une autre exposition prolonge l'exposition Portrait d'un règne. C'est l'exposition sur les régicides réalisée par mon collègue Olivier Bosque dans le cabinet des livres.
Dont la date s'arrête aussi le 16 août.
Exactement.
Merci, au revoir.